Bonjour les amis. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de la suite du dernier message où j'avais abordé le verset de Matthieu 11, verset 28. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Alors je ne vais pas revenir sur le message, mais juste donner deux rappels que je trouve importants. Alors je vais essayer d'arriver au bout du message parce que j'ai un petit peu été chamboulé ce matin dans ce que le Seigneur nous a déjà donné de vivre. Et il y a quelques changements qui s'imposent, alors j'implore votre grâce. Donc je voulais simplement rappeler par rapport au dernier message que le joug n'est pas un fardeau, mais c'est un moyen de tirer le fardeau. Et Jésus ne nous propose pas d'enlever tous nos fardeaux, mais il nous donne des moyens pour pouvoir les déplacer facilement. Alors fardeau, on voit souvent des choses négatives, mais c'est aussi la charge de travail que nous avons les uns et les autres dans nos responsabilités. Par exemple, Jésus ne va pas faire nos devoirs à notre place, mais il peut nous donner des ouvertures d'esprit, des facilités de compréhension par rapport à ce que nous sommes en train d'apprendre. Et de même, il ne va pas aller travailler le lundi matin à notre place, mais il nous accompagne et il nous donne aussi la paix, la joie dans ce que nous faisons. En fait, je disais aussi que le fardeau que nous devons déposer ou que nous sommes invités à déposer à la croix de Jésus, c'est le fardeau de nos fautes, de nos errements, le fardeau de la honte que nous pouvons porter sur notre vie. Toutes ces choses-là, nous pouvons les déposer. Jésus a tout payé, il a donné sa vie pour que nous soyons libres. Alors, après ce message, quelqu'un m'a posé la question, prenez mon joug. Alors, je l'avais un peu imagé et illustré. Il m'a dit, mais j'aimerais bien aussi savoir la suite avec le « et mettez-vous à mon école ». Alors, je vais essayer d'aller un peu dans ce sens ce matin. Ce que ça veut dire de se mettre à l'école de Jésus. Parce qu'il nous donne un joug, donc les moyens d'avancer plus facilement, mais encore, il veut nous instruire pour savoir comment utiliser ce joug et aussi quelles sont les charges que nous devons tirer avec. Alors on pourrait simplement dire, en résumé, lisez votre Bible et mettez-la en pratique. Bon dimanche à tous. C'est bon? Pourquoi c'est pas suffisant? Alors en fait, se mettre à l'école de Jésus, c'est ce que nous faisons ce matin. Nous sommes ce matin à son école. Nous vivons sa présence. Nous vivons son amour. Nous avons proclamé des choses. Nous savons qu'il est avec nous, il est au milieu de nous, c'est ça l'école de Jésus. Et après, il y a la partie pratique qui consiste à vivre ça quand nous rentrons chez nous, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre quotidien. Nous avons vécu ce matin sa présence, il est encore avec nous, demain matin, il est encore avec nous toute cette semaine. Alors ce matin, peut-être avons-nous vécu cette présence de Dieu, nous l'avons sentie. Et pour ceux qui étaient dans le petit groupe de prière avant le culte, nous avons déjà été élevés dans des lieux très élevés, dans la présence de Dieu et de vraiment sentir ce cœur de Dieu pour les nations. Mais peut-être avons-nous simplement cette information pour l'instant. Nous avons entendu ce matin, Dieu est avec nous. Alors peut-être que ce n'est qu'une information pour nous, pour l'instant, mais ce n'est pas grave. Nous pouvons continuer avec cette information, demander Dieu, lui demander, mais ça veut dire quoi concrètement, tu es avec moi dans mon quotidien. Alors bien évidemment, nous sommes invités à lire la Bible, c'est là où nous avons les informations qui concernent le royaume de Dieu. Nous sommes invités à prier aussi, à demander à Dieu, mais ce qui est écrit, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Donne-moi des explications. nous nous retrouvons à l'église et nous recevons des explications dans les messages, dans les temps de louange, nous vivons des choses concrètes avec le Seigneur. Nous voyons que Jésus est venu pour nous donner la liberté, pas pour nous imposer encore un poids, des choses tu dois faire, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu ressembles. Mais vraiment, Jésus est venu nous apporter la liberté. On peut aussi aller à des séminaires, on peut suivre des formations. Toutes ces choses sont importantes. Mais comme dans chaque école, dans chaque formation, les acquis sont validés une fois qu'on a réussi l'examen. Et pour nous, l'examen, c'est quand nous pouvons mettre en pratique ce que nous avons entendu. Par exemple, je me souviens d'une phrase qu'un pasteur mexicain avait dit ici. La soumission aux responsables commence quand on n'est plus d'accord avec eux. Et je trouvais ça tellement fort parce que, ouais, moi, je veux être soumis à mes pasteurs, pas de problème et tout. Et le jour où il me demande un truc qui ne me plaît pas, je dis, mais il se prend pour qui ? Et je trouvais ça tellement fort que c'est vrai, la soumission commence quand je ne suis plus d'accord. Et en fait, cette validation de nos acquis, elle se passe toujours en tête à tête avec Jésus. C'est toujours Jésus qui me regarde dans les yeux, qui me pose la question, mais maintenant, tu es d'accord de te soumettre ? Et alors, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Il ne me force pas. Mais je sais simplement que ce qu'il veut m'enseigner, cela devient concret dans ma vie quand je peux obéir à ce qu'il me demande. Je ne sais pas si je vous avais raconté cette histoire où Isabelle avait suivi une formation où il était question de mourir à soi-même, et moi ça m'a bien plu. Oui Seigneur, moi je veux mourir à moi-même. Et le dimanche d'après, j'étais de présidence du culte, là où on était à l'église, et j'ai dit une phrase toute bête, en attendant que les derniers arrivent, on va continuer de louer le Seigneur. Et l'orateur qui était un invité ce jour-là, il m'a repris après publiquement, il a dit « Oui, on ne loue pas le Seigneur en attendant que les gens arrivent, on loue le Seigneur parce qu'il est le Seigneur. » Et alors bien sûr, moi j'étais confus parce que ce n'est pas quelque chose que je pensais, c'était juste une formulation maladroite. Et alors j'étais sur ma chaise, j'ai dit « Bon, après la fin du message, il faut que je reprenne la présidence, comment je vais tourner les choses ?» pour quand même pas perdre la face, j'ai mon honneur. Alors, et Jésus m'a demandé, mais tu voulais pas mourir à toi-même la semaine dernière, alors est-ce que tu veux mourir à toi-même ce matin ? C'est une occasion. Oui. Et donc, je suis mort à moi-même dans cette occasion, et il y a quelque chose qui est rentré dans mon cœur par rapport à la présence de Jésus et par rapport à l'identité de Jésus en moi. Il y a aussi, pour rappeler les messages de Nadine sur être prisonnier ou être captif, sur le fait de pardonner, de choisir de pardonner. C'est une bonne information que nous recevons quand nous écoutons le message, mais c'est toujours en tête à tête avec Jésus quand il nous demande « Mais alors cette personne-là, est-ce que tu veux lui pardonner ou pas ?» Et nous sommes toujours libres, mais c'est dans ces moments-là que nous apprenons et que nous validons les choses que nous avons entendues. Alors c'est pas grave, j'aimerais vous enlever la pression. Si vous ne réussissez pas l'examen, c'est pas grave, Jésus revient à un autre moment, il vous donne encore l'occasion, il ne vous lâche pas, il n'est pas insistant pour vous terroriser, il faut absolument que... C'est simplement, il nous donne l'enseignement par différents moyens et il nous donne l'occasion aussi, par des choses concrètes, de le mettre en pratique. Donc ça, c'est une belle chose, pouvoir parler à Jésus, dire « Ok, Seigneur, je suis d'accord, c'est bon pour moi. » Et vraiment, je trouve ça important ce matin de rappeler que Jésus est avec nous et il est pour nous. Il n'est pas là en train de nous obliger à faire des choses qui ne nous servent à rien à nous, mais qui sont simplement pour des motifs religieux. C'est vraiment, il est pour nous Et ce qu'il a pour nous, c'est pour notre bien, c'est pour nous élever, c'est pas pour nous enfoncer. Et j'ai bien aimé ce temps de proclamation parce que, au-delà de toutes les informations qu'on reçoit en dehors des choses mauvaises qu'on entend, les menaces, des craintes qui sont véhiculées, j'aimerais vraiment dire ce matin, écoute le son des cœurs qui se tournent vers Dieu. Je trouve cette phrase vraiment énorme, formidable. Écoute ce son parce que ça a un son dans le ciel, le cœur de ceux qui se tournent vers Dieu. Et moi, je trouve ça vraiment énorme, quoi. Je dis, écoute ce son, n'écoute pas la voix de ceux qui annoncent le malheur. Écoute ceux qui se tournent vers Dieu. Et il y a des gens qui se tournent vers Dieu. Et il y a 2 semaines, on discutait avec des amis par rapport à l'évolution de notre foi depuis des dizaines d'années maintenant. Et on se disait, c'est vrai que ça a changé. Parce que, enfin, nous, on avait l'impression, en tout cas à notre époque, quand on se convertissait, on réalisait que Dieu est celui qui guérit. Et quand on venait vers les responsables d'église, pourquoi est-ce qu'on ne prie pas pour les malades? C'était, ah, mais tu comprendras quand tu seras un peu plus âgé, etc. Donc, c'est des aspirations du cœur qui étaient souvent étouffées sous des principes parfois religieux. Et on faisait ce constat qu'aujourd'hui, nos jeunes, quand ils découvrent la foi, quand ils croient au miracle, il y a quelqu'un pour les emmener, pour aller prier dans les rues, pour prier pour les malades. C'est pas, on va pas leur dire, ah, mais tu comprendras, tu sais, c'était dans le temps. Il y a du monde, il y a des pères et des mères pour emmener les jeunes dans la foi, pour vivre les choses concrètement. Et ça me réjouit. Et je me souviens aussi quand on a commencé une chambre de prière, tout timidement, déjà les gens disent, mais c'est quoi cette chambre de prière? Ça fait bizarre. Et maintenant, à 500 mètres de là où on était à l'église, il y a une maison de prière qui commence, où on prie pour les gens, où on loue le Seigneur, où on l'adore, on prie pour les malades. C'est vraiment énorme. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une évolution. Écoute ce son ce matin. Écoute que le Seigneur est en train de visiter notre nation, mais aussi l'Europe et les nations tout entières. Et nous ne voulons pas nous laisser impressionner par les mauvaises nouvelles qui arrivent ou par les analyses qui sont faites, des analyses géopolitiques parfois ou socioculturelles, enfin tout ce qu'on veut. Et peut-être parfois on doit aussi sélectionner nos sources d'informations pour rester connecté à ce que le Seigneur a prévu. Alors il y a un frein à l'apprentissage, ce sont les soucis. Et il est dit dans Matthieu 13 au verset 22, dans la parabole du semeur, cette graine qui tombe dans les ronces, c'est cette personne qui reçoit la parole de Dieu avec joie. Ouais, Dieu est en train de changer le monde, ce que je suis en train de vous dire ce matin. Mais les soucis de la vie viennent étouffer cette parole. Et donc, d'une dimension où on est dans les réalités du royaume de Dieu, on peut très vite basculer dans une dimension où finalement rien n'est possible, où les choses sont tristes, où les horizons sont fermés. Alors, dans 1 Pierre, il est dit, 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Et ça, c'est vraiment un apprentissage. Parce que les soucis, c'est quoi ? C'est « je ne sais pas comment je vais y arriver » ou « je ne sais pas où on va ». Ça, ce sont des soucis qui sont en permanence autour de nous, qui viennent nous voler notre assurance, qui viennent nous voler notre joie. C'est un apprentissage dans chaque situation de notre vie, vraiment de prendre autorité sur ces soucis qui veulent venir nous prendre notre paix. Alors, c'est des choses toutes concrètes, hein. C'est quand il faut payer la taxe foncière, comment est-ce qu'on réagit, quelles sont nos difficultés par rapport à ça, c'est quand on doit faire face à une épreuve dans la vie, comment est-ce qu'on aborde les choses. Dans toutes les circonstances, vraiment, nous pouvons vivre sans la pression des soucis. Et c'est quelque chose que j'apprends aussi dans le métier, dans l'agriculture. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la mécanique, mais cette semaine, j'ai entrepris de réviser les injecteurs de la moissonneuse et ça m'a pris au moins 2 jours. Et vraiment, j'ai cultivé cet état d'esprit de rester dans la paix du Seigneur. Il y avait beaucoup de choses à démonter, que j'apprenais en même temps que je démontais. Et en même temps, quand on démonte, il faut aussi remonter. Et quand j'avais terminé de remonter, ça ne marchait pas comme prévu. Et alors parfois, on a envie de dire, au nom de Jésus, moissonneuse, tu marches. Et enfin, tu fonctionnes. Et, mais ça ne marche pas comme ça. Ça peut arriver. Hein. J'ai déjà vécu aussi des choses comme ça où la mécanique a obéi au Seigneur. Mais en même temps, c'est vraiment de l'apprentissage. Ce n'est pas facile, mais je continue de travailler dans la paix du Seigneur. Et j'ai vraiment pu vivre ça cette semaine, et c'est dans tous les domaines, on peut le vivre comme ça. Ce n'est pas toujours facile au début, mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre et qui se développe et qui grandit. Alors ce que j'ai déjà réalisé aussi, c'est que j'ai beaucoup appris déjà, parce que Dieu n'a pas répondu à mes prières. Et par exemple, la machine à laver qui est tombée en panne, j'ai imposé les mains et elle est restée en panne. Finalement, j'ai commencé à la démonter et j'ai vu que c'est le moteur qui ne fonctionnait plus. Et en même temps, j'ai appris qu'on pouvait changer des balais, pas des essuie-glaces, mais des petits balais en charbon qui s'usent et qui font que le moteur ne tourne plus. Donc, j'ai réussi à réparer la machine à laver pour 23 euros. Alors, je me dis, mince, si le Seigneur avait guéri, enfin, réparé la machine à ma place, je serais resté dans l'ignorance par rapport à ça. Alors, je ne veux pas faire des généralités. Hein, je veux dire, parfois, on n'est tout simplement pas en mesure et il faut que Dieu intervienne. Mais c'est aussi dans la mécanique, c'est comme ça des choses que je ne connais pas parce que j'ai dû chercher des solutions. Et parfois, nous donne aussi des indications. Dieu nous donne des indications dans quel sens on doit chercher, et il nous apprend. Et après, on est content parce qu'on a appris quelque chose. Ne m'amenez pas vos machines à laver parce que j'ai d'autres choses à faire. J'ai beaucoup appris aussi parce que Dieu a répondu à mes prières. Et ça, c'est bien aussi. Quand on prie, on demande à Dieu des choses. Et il agit en notre faveur, il nous répond. Quand on a des difficultés relationnelles, quand on prie, Seigneur, montre-moi ce que je peux faire, et Seigneur nous donne des indications. Voilà ce que tu peux faire dans cette relation qui va apporter une solution, qui va ouvrir des portes. On le fait et on voit que ça change les choses. Merci Seigneur. Alors ce que j'aimerais dire aussi, c'est que vraiment Dieu connaît tous les domaines. Il ne peut pas seulement nous enseigner dans la vie d'église. Il ne peut pas seulement nous enseigner dans les choses spirituelles, comment prier, comment intercéder, comment louer, tout ça. Il peut aussi nous enseigner comment travailler la terre. Il peut nous enseigner comment enseigner. Il peut nous enseigner comment inventer une machine. Il peut nous enseigner dans tous les domaines. Il n'y a rien qui soit où Dieu n'est pas compétent. Et je sais qu'il y a des gens qui ont reçu des informations de la part de Dieu et qui leur ont permis de développer une technique ou une machine ou un produit qui a révolutionné dans le secteur. Alors moi, j'ai dit à Dieu, moi je veux cultiver la terre selon ta pensée. Donne-moi des stratégies, donne-moi des techniques que je peux mettre en œuvre. Et en fait, Dieu a commencé à transformer le cœur de l'agriculteur. Il ne m'a pas donné des informations. Bon, maintenant, il faut que tu plantes ça, il faut que tu plantes ça. C'est d'abord le cœur de l'agriculteur. Élargir mon cœur dans ma famille, dans la relation avec mon épouse, avec mes enfants, dans la relation avec mes voisins. Élargir mon cœur aussi par rapport à ce que Dieu est capable de faire. De ne pas rester coincé dans des schémas, mais vraiment être ouvert à ce que Dieu veut faire. Et vraiment apprendre en toutes circonstances à dépendre de Dieu et à lui faire confiance. Et je me réjouis de toutes les choses qu'il va encore m'enseigner et qu'il va me montrer. Alors je vous donne un exemple encore de choses qu'on peut entendre et qu'on peut mettre en pratique ou pas. C'est comme... l'histoire du pardon, on peut entendre qu'il faut pardonner, mais est-ce qu'on va le faire ? Et cet été, je vous avais demandé de prier pour les cultures, pour la pluie. Et suite à ce message qui avait été diffusé à l'église, il y a Jeannette qui m'a répondu un message par rapport au fait qu'on a aussi reçu l'autorité de parler au temps, enfin à la météo. Alors c'était une bonne information, je le savais déjà un petit peu, mais après en pratique on fait comment ? Je vais dehors, vent, arrête-toi de souffler si fort, ou c'est des choses qu'on ne connaît pas. Alors je me suis dit, bon, Seigneur, je vais avec toi. Alors vous me voyez souvent, enfin tous les dimanches avec mon bâton que j'emmène à l'église. Ce bâton, c'est un peu le symbole que j'ai reçu l'autorité sur la terre que je cultive de la part de Dieu, de mettre en pratique les principes du royaume de Dieu. Alors avec ce bâton aussi, quand il y a de l'orage qui arrive, de sortir et de parler au temps. Non pas que l'orage s'arrête, mais qu'il serve à bénir mes cultures, qu'il serve à travailler dans la volonté de Dieu, non pas pour la destruction, mais pour la bénédiction. Et ce que Jeannette m'a aussi rendu attentif, c'est pas d'être arrogant, mais simplement de rappeler à la météo qu'elle a été créée pour la bénédiction. Et moi, j'ai été créé pour cultiver la terre, pour cultiver le royaume de Dieu. Et donc, on doit travailler ensemble pour la bénédiction. Et c'est des choses que je suis allé mettre en pratique. Alors, c'est sûr que peut-être que si les voisins m'avaient vu, ils auraient pensé que ce serait bon de m'emmener quelque part. Mais c'est vraiment, j'ai vu que mes champs ont été bénis. Je n'ai pas eu de dégâts dans mes parcelles. Et pourtant, pas très loin, il y a eu des dégâts importants de grêle et de tempête. Alors... j'ai aussi appris que ce n'est pas juste pour ma pomme, dans le sens « Seigneur, bénis mes champs, ce qui arrive aux autres, ils n'ont qu'à croire en toi et tout », mais vraiment que cette bénédiction, elle s'étende sur les autres, pas juste sur moi, sur ma famille, mais qu'elle s'étende sur les autres. Et vraiment, je crois qu'il y a des choses qui bougent. Alors, parfois, on se sent un petit peu seul dans des choses comme ça où on n'a pas beaucoup de personnes qui pensent comme nous. Mais il y a partout en France et en Europe des gens qui cherchent la face de Dieu, aussi pour l'agriculture et bien sûr dans tous les autres domaines. Alors j'aimerais juste encore terminer avec une image qu'on a déjà entendue. En fait, hier, j'étais impliqué dans un salon de l'artisanat. Il y avait un stand où les agriculteurs présentaient un peu le maïs, la filière, les débouchés. Et donc j'avais accepté. Et vendredi soir, je suis quand même venu au tabernacle. Et puis Isabelle me dit, mais tu prépares le message quand ? Alors je dis, t'inquiète, il est là. Alors elle me dit, mais il faut qu'il soit là. Elle dit, oui. Et j'aimerais reprendre cette image. On a déjà entendu quelques témoignages où des gens ont dit, c'était ici, par exemple, sur Dieu même, comme un père, c'était là. Et après, c'est descendu ici. On a aussi entendu que nous ne sommes pas des tuyaux vides dans lesquels Dieu déverse ses bénédictions pour qu'on touche les autres, mais nous sommes des vases que Dieu remplit, et quand ça déborde, ça va sur les autres. C'est ce qui déborde qui va sur les autres. Et d'abord, ça nous remplit. Alors ces deux choses ensemble, j'aimerais terminer avec ça, c'est simplement que je me suis rendu compte que parfois il y a des choses qui sont dans ma tête, je sais que c'est juste dans ma tête, que ce n'est pas encore descendu, et j'aimerais que ça descende. Parfois, il y a des choses que je crois que c'est déjà descendu, mais c'est en fait encore en haut. Mais ce qui me rassure, c'est que quand Dieu renverse des choses dans notre tête, quand notre tête est pleine, qu'est-ce qui se passe ? Ça déborde. Et c'est pas, ah, si c'est dans ta tête, alors ne parle pas. Attends déjà que ça soit dans ton cœur. C'est pas du tout comme ça. Ce qui est dans ta tête, si ça déborde, ça touche déjà des gens. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, ce qui est dans la tête, ça reste de la connaissance. Mais ta connaissance qui déborde sur les autres donne des informations qui peuvent leur permettre d'aller plus loin aussi. Même si tu dis aux autres simplement que Dieu les aime, mais que toi, tu ne l'as pas encore compris dans ton cœur, eux, ils peuvent le prendre et laisser faire le travail du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe quand on est quand les choses sont descendues dans notre cœur et que Dieu continue à mettre des choses, ça déborde. Et la différence, c'est que ce qui est passé dans notre cœur produit la vie. Ce n'est pas simplement une connaissance, mais ça produit la vie. Alors j'aimerais ce matin simplement vous encourager de vous faire grâce s'il y a des choses qui sont dans votre tête et qui n'ont pas encore eu le temps de descendre. Ne paniquez pas, il y a le moment où ça va descendre. Et en tout cas, ne vous enfermez pas, ne vous taisez pas en prétextant ben, vous n'avez pas encore bien compris la chose, donc vaut mieux rien dire. Parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui décidons forcément quand ça va se passer de descendre de la tête jusque dans le cœur. Parfois, c'est le fait d'obéir à quelque chose que Jésus nous demande qui va permettre que ça descende de la connaissance à la vie. Mais parfois, c'est simplement une révélation que Dieu a choisi de nous donner à un moment précis qui va nous pulvériser et qui va vraiment le faire entrer dans notre cœur. Et là, nous sommes sûrs. Et même ça descend jusqu'au doigt de pied. On bouge plus. Alors c'est vrai que, enfin, je voulais vous montrer, je voulais vous faire une petite démonstration, mais ça aurait pris trop de temps. C'était quand les choses restent dans nos têtes et qu'il y a un peu de vent qui vient, on est moins stable. Quand les choses sont dans notre cœur, quand il y a du vent qui vient, on est déjà plus d'aplomb. Alors ce matin, j'aimerais simplement vous encourager. Continuez de marcher dans la confiance en Dieu, il est avec toi, il est pour toi et il va trouver le chemin de ton cœur dans toutes les circonstances. Et j'aimerais terminer encore par la prière. Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle que tu es au milieu de nous. Tu es avec nous maintenant, tu es pour nous et tu nous accompagnes toute cette semaine. Et Seigneur, merci pour le chemin que tu fais avec chacun de nous. Merci pour ta patience, pour ton amour. Merci pour les portes que tu ouvres, pour celles que tu fermes. Et merci Seigneur pour tout ce que tu nous apprends, jour après jour. Et j'aimerais ce matin vraiment bénir toutes ces personnes qui ont peut-être juste entendu et qui sont en train de réfléchir à ce qu'ils ont entendu, Seigneur, que vraiment tu les visites, que tu leur permets de découvrir dans leur cœur ces choses profondes, Seigneur. Merci parce que tu transformes nos vies en profondeur. Et merci parce que cette vie que tu nous donnes, cette vie que tu déverses en ce moment sur nos pays, Seigneur, nous pouvons être participants et nous pouvons vraiment vivre dans cette communion avec toi et vivre ces miracles que tu vas faire autour de nous. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, nous élevons le nom de l'Éternel au-dessus de nous, de cette région. Gloire à toi, Jésus. Amen.